Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Voici une affaire criminelle culte des années 30. Le meurtre à Paris, dans son bureau, en 1933, du directeur du cinéma Le Palace, Oscar Dufresne. Comme il était ouvertement homosexuel, cette enquête nous fait entrer dans l'univers très secret de ce qu'on appelait à l'époque les invertis, ou les homos, mœurs spéciales. C'est une affaire criminelle que je vous raconte, mais c'est aussi de l'ethnologie. Pour débriefer cette histoire tout à l'heure, Florence Tamagne, historienne et maître de conférence à l'université de Lille 3, c'est de son livre « Le crime du palace » chez Payot que j'ai tiré ce récit. La réalisation est de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Commençons par le décor de cette histoire. Le music hall culte des années 20 et des années 30 à Paris. Le Palace, rue du Faubourg-Montmartre. Le music hall qui, en 1923, a osé faire danser sur scène une femme quasiment nue, simulant un rapport sexuel. Oh, que ça a fait du bruit, ça. Mais qu'est-ce que ça a eu comme succès? La presse bien-pensante a joué les vierges effarouchées, mais la salle était pleine tous les soirs. Le Palace, dans ces années-là, c'est l'endroit où on s'amuse à Paris. Et avec le succès du cinéma parlant, c'est devenu le plus beau cinéma de Paris. Et tout ça sous la férule d'un homme de génie, le patron Oscar Dufresne. Le soir du 25 septembre 1933, le comptable du palace toque à la porte d'Oscar Dufresne. Il est minuit 20. Le cinéma vient de fermer. Comme tous les soirs, il vient juste saluer son patron. Mais il ne répond pas. Alors il ouvre la porte. Le bureau est plongé dans le noir.
C'est bizarre, ça. Je pensais qu'il était encore là.
Et il va tout de suite chercher Henri Varna, l'associé de Dufresne, qui rapplique avec le projectionniste. Et tous les trois, ils pénètrent dans le bureau. Et ils voient tout de suite qu'il s'est passé quelque chose de grave. Parce qu'il y a eu une tache de sang sur le parquet. Et près du bureau, un matelas posé sur le tapis, enroulé. Henri Varna soulève le matelas, il déplie le tapis et il découvre le corps d'Oscar Dufresne. Le directeur du palace a été assassiné dans son bureau. C'est un événement considérable. Parce qu'Oscar Dufresne, à l'époque, c'est une légende du monde du spectacle. Il a commencé à 16 ans en clouant des décors dans un théâtre, et après une petite carrière de comédien, il a fini par décrocher le rôle ultime de directeur de théâtre. Et avec lui, théâtre, hein, c'est au pluriel. Parce qu'au moment de son assassinat, en plus du palace, Dufresne dirige le concert Mayol, le Moncey Music Hall, les Bouffes du Nord, le Bataclan, le Casino de Trouville, le Casino de Paris... Et il a fait construire le théâtre de l'Empire. Et avec ça, politicien, conseiller municipal du 10e arrondissement de Paris et conseiller général de la Seine. Et par ailleurs, président du syndicat des directeurs de spectacle et impresario du plus célèbre chanteur de l'époque, Félix Mayol, qui vient de signer l'un de ses plus grands tubes.
Viens poupoule, viens poupoule, viens. Quand j'entends les chansons, ça me rend tout polisson. Ah, viens poupoule, viens poupoule, viens. Souviens-toi que c'est comme ça que je suis devenu papa.
Mais Dufresne, qui est là, enroulé dans le tapis de son bureau, était encore plus que ça. C'était le roi des nuits parisiennes, le pape des années folles. La presse moraliste l'appelle l'exhibeur de cuisses. Et disons-le tout de suite, parce que c'est important à savoir au moment où s'ouvre cette enquête, c'était un inverti, un homosexuel, à l'époque on disait un pédéraste, et de notoriété publique, hein, sans vraiment se cacher. Et son associé, Henri Varna, est aussi, comme le chanteur Félix Mayol et le chanteur Jean Sablon, qui est de toutes les revues d'Oscar. Et lui, qui était donc de la jaquette fleurie, comme on disait aussi, pour draguer, n'avait pas besoin d'aller bien loin. Vous êtes déjà allé au palace? Ça existe toujours, hein. Ça a été une boîte de nuit gay. Aujourd'hui, c'est un théâtre. Mais rien n'a changé. En haut, tout en haut, il y a une sorte de galerie où on assiste au spectacle debout, dans la pénombre. On appelle ça un promenoir. Il y en a dans la plupart des salles de spectacle de l'époque. Et en vérité, dans la pénombre, c'est là qu'on se drague entre garçons. Oscar Dufresne y passait le plus clair de son temps. C'était bien commode, hein. Les jeunes garçons savaient bien sûr que c'était le patron. Ils venaient se frotter à lui. Et il n'avait que deux portes à pousser pour les conduire dans son bureau. Et plus si affinité. Tout ça pour dire que quand on le retrouve mort, le soir du 25 septembre 1933, baignant dans une mare de sang au pied de son bureau, on pense tout de suite à un de ses garçons. Les policiers arrivent au palace vers minuit et demi. Et ils découvrent la scène de crime. C'est un grand bureau avec deux fenêtres, un canapé, des fauteuils, des placards, un lavabo et un coffre-fort. Le cadavre, c'est un peu délicat. Il est à moitié nu. Il a le pantalon et le caleçon à mi-cuisse, la chemise est ouverte, elle est pleine de sang. Le gilet et le veston sont posés sur un fauteuil près de la fenêtre. Il paraît clair qu'il a été tué en plein ébat. Oui, c'est très clair. Le légiste arrive à son tour. Il prend la température du cadavre. Il est froid, mais il est encore souple. Dès lors, je dirais que le crime a eu lieu entre 22h et 22h30. Le légiste note aussi des plaies profondes sur le crâne, qui semblent coller avec les éclaboussures de sang sur le mur et même sur le plafond. Eh bien, pour que le sang atteigne le plafond, les coups ont dû être très violents. Qu'est-ce que c'est ça dans le lavabo, là? C'est une serviette mouillée, commissaire. Elle est tachée de sang. Il a dû se laver les mains avant de s'enfuir. Quant au mobile, le secrétaire de Monsieur Dufresne a sa petite idée. Le portefeuille d'Oscar a disparu. Il avait environ 1 000 francs sur lui. Et d'après ce que je vois, il manque aussi sa montre en or. Et en faisant le tour de son bureau, il s'aperçoit qu'il manque aussi son porte-mine, en or lui aussi, et son trousseau de clés, et donc la clé du coffre-fort. On l'aurait tué pour le dépouiller. « Dites-moi, monsieur, vous êtes son secrétaire, n'est-ce pas ?»« Oui. Oui, je m'appelle Serge Nicolesco. »« Vous savez si monsieur Dufresne avait un rendez-vous ce soir ?»« Ah non. Ah non, je peux vous l'assurer, il n'avait rendez-vous avec personne. » Vous savez ce qu'il a fait dans la soirée? Oui, oui. Il a dîné chez moi, avec sa sœur Sidonie et un autre de nos amis. On a joué aux cartes jusqu'à 9h30. Et puis je l'ai ramené au palace. Vous avez senti chez lui une inquiétude? Ah non, non. Il était d'humeur joyeuse, comme à son habitude. Rien à signaler, et c'est comme ça avec tous les proches du patron. Même son chauffeur joue les saintes nitouches.
Dites-moi, monsieur, à votre connaissance, est-ce que monsieur Dufresne avait l'habitude de recevoir des hommes dans son bureau pour des relations intimes, si vous voyez ce que je veux dire?
Monsieur Dufresne? Avec des garçons? Je ne savais pas qu'il avait des mœurs spéciales.
Et le pire, c'est Henri Varna, son associé depuis 15 ans, qui de notoriété publique a été son amant.
Ah! J'ignorais totalement que mon associé pouvait avoir des relations particulières. Vous me l'apprenez.
Mais quelle bande de faux culs! Parce qu'en vérité, tout le monde sait que Dufresne a entretenu des relations intimes avec son secrétaire, Nicolesco, avec le chanteur Jean Sablon et avec son associé Henri Varna. Alors pourquoi est-ce qu'ils mentent, tous? Eh bien parce qu'on est en 1933. Certes, les années folles ont libéré les mœurs. Dans les milieux festifs parisiens, il y a des hommes qui vont avec des hommes et des femmes qui vont avec des femmes. Mais de là à reconnaître la chose publiquement, non. On n'en est pas là. Et puis, ils protègent sa mémoire. Ils ne veulent pas qu'on réduise le grand Oscar Dufresne à des coucheries entre garçons. C'était un grand directeur de théâtre, tout de même. Un inventeur, un précurseur, un type qui a senti son époque comme personne. Les gens du palace ne veulent pas que le goût de leur patron pour les jeunes minés fasse oublier le reste. Et donc, en ce début d'enquête, ils n'aident pas beaucoup la police. Il n'y en a qu'un qui est prêt à appeler un chat, et un garçon, un garçon. C'est le chanteur Jean Sablon. Dufresne l'a produit récemment en spectacle avec Mistinguette. Et dans quelques mois, Sablon deviendra une star absolue avec cette chanson.
Vous, qui passez sans me voir, sans même me dire bonsoir, donnez-moi un peu d'espoir ce soir. J'ai tant de peine, vous, dont je guette un regard. Pour quelle raison ce soir passez-vous sans me voir?
Lui, Jean Sablon, il est homosexuel et il en parle librement. C'est courageux à l'époque. Et quand la police vient le voir, moi, personnellement, je ne vois strictement aucun mal à évoquer les relations particulières d'Oscar, ni même le fait que j'ai été son amant. Vous avez une idée de qui a pu l'assassiner?
J'en ai une, oui. Son secrétaire, Nicolescu. C'est l'un de ses anciens amants, et vous ne trouverez pas grand monde au palace pour en dire du bien. Il est d'une jalousie maladive. Il piquait des crises à chaque fois qu'Oscar rencontrait un garçon. Une fois, il l'a même mordu. Tout le monde connaît cette histoire. C'est une peste. C'est une peste, je vous dis. Et d'ailleurs, à ma connaissance, Oscar lui avait demandé de se trouver une autre place. Ah ah! Et vous pensez qu'il peut l'avoir tué? Oh, ça, je ne sais pas. Mais Oscar m'a dit un jour, il est complètement fou. Il vient tenter de se suicider, qu'il se suicide s'il le veut, mais je ne veux pas qu'il fasse autant pour moi. Je tiens ma vie à moi, je me souviens, il m'a dit ça.
D'entrée donc, Serge Nicolescu, le secrétaire, devient le suspect numéro 1, avec pour mobile la jalousie. Les policiers retournent donc le voir.
Vous étiez en conflit avec M. Dufresne? On nous a dit qu'il était sur le point de vous renvoyer.
Oh, mais pas du tout.
Qui vous a dit ça? C'est vrai que nous avons été brouillés quelque temps. Mais depuis leur entrée, nos relations s'étaient apaisées, vraiment. J'en veux pour preuve qu'il dînait chez moi hier soir. Est-ce que vous dîneriez, vous, avec quelqu'un que vous ne supportez pas? Pourriez-vous néanmoins nous donner votre emploi du temps détaillé hier soir, monsieur Nicolescu?
Bien entendu. Comme je vous l'ai déjà dit, nous avons dîné chez moi avec des amis. Il était là. Et puis je l'ai conduit au palace vers 9h30. Ensuite, je suis allé garer sa voiture au garage de la rue de Chaillot. Et puis j'ai regagné mon domicile et je me suis couché.
Vers quelle heure?
Vers les 10h. Et on m'a réveillé vers 2h du matin pour m'apprendre la triste nouvelle.
La première journée d'enquête se conclut ainsi, sur un vague soupçon assez peu étayé, finalement. En revanche, le lendemain, les langues se délient. C'est l'administrateur du cinéma, Joseph Auduit, qui crache le morceau. Oui, ce soir-là, Oscar Dufresne avait bien rendez-vous avec un garçon.
Ce garçon, je l'ai vu arriver. Vers les 10h moins le quart. Il avait un calot à pompons, vous savez, un béret de marin. C'était un jeune marin, je pense. Et il s'est présenté avec un billet qui était signé de la main de Monsieur Dufresne. Donc je l'ai laissé entrer. Et naturellement, je l'ai placé au promenoir.
Eh bien voilà, on y vient, que de temps perdu. Pendant ce temps, l'assassin a eu tout le temps de s'enfuir. Un marin à cette heure-ci est peut-être à Amsterdam, ou à Barcelone, ou à Turin. Les policiers convoquent tous les employés du palace.
Bien. On nous a signalé la présence le soir du meurtre d'un jeune marin. Il nous faudrait un signalement plus précis. Est-ce que vous l'avez vu? À quoi ressemblait-il?
Et là, miracle, ils ont tous retrouvé la mémoire.
Il était grand, dans les 1m75.
Ah oui, très grand, 1m75 pour l'époque, c'est beaucoup.
Il était brun, très mince, avec le visage long, pâle, rasé, avec un nez long, très busqué, et des yeux verts.
Le signalement est immédiatement diffusé à tous les journaux, à la radio publique et bien sûr au service de police. Et tant qu'à faire, on envoie au crédit municipal et à la chambre syndicale des horlogers la description précise de la montre en or, au cas où le voleur serait tenté de la revendre. C'est à ce moment-là que le légiste rend son rapport détaillé. Il a compté les plaies sur le visage et sur la tête d'Oscar Dufresne. 17, qui auraient pu être provoquées par un objet du genre manche de pioche, matraque ou queue de billard. Et surtout, il affirme qu'il n'est pas mort de ses blessures. Il est mort étouffé dans le tapis qui emballait son corps. Enfin, laissez-moi lire le passage qui concerne son entrejambe. Aucune lésion n'a été révélée au niveau des organes génitaux et de l'anus. Non plus qu'aucune trace de sperme, ni dans la bouche, ni dans l'anus. Par contre, l'examen microscopique a décelé, dans une gouttelette blanchâtre prélevée à l'extrémité de la verge, la présence des éléments du sperme. De même, les constatations faites sur le caleçon, souillé de sperme au niveau de l'entrejambe, autorisent à penser que des actes érotiques ont accompagné la scène de meurtre. Il a couché avant de mourir. Voilà ce que ça veut dire. Reste à trouver avec qui. Un spectateur, qui était ce soir-là au promenoir, dit qu'il a vu Oscar Dufresne.
Ben, je l'ai vu sortir par une porte de secours. Avec un jeune marin qui avait un grand nez.
Le juge d'instruction Bru, qui vient d'être nommé, envoie un message à toutes les unités de la marine. Recherchons marin d'une taille supérieure à 1m70 qui aurait pu se trouver à Paris entre le 21 et le 24 septembre. La marine lui envoie une liste de 1700 matelots. Et dans la foulée, le juge est obligé d'envoyer des policiers les interroger, là où ils sont, c'est-à-dire à Saint-Malo, à Cherbourg, à Lorient, à Brest, à Rochefort, à Toulon, à Nice, à Villefranche et à Marseille. Beaucoup de temps perdu. Notant que ça ne donne rien. Rien. Et pendant ce temps, la presse s'en donne à cœur joie. Le Petit Parisien, Détective, Paris Soir, Le Petit Journal se régalent de ces histoires de fesses entre garçons. Et tant qu'à faire pour vendre du papier, ils inventent une nouvelle piste, tout aussi sulfureuse que les histoires de fesses. Une piste qui colle au fantasme de l'époque, l'opium. L'opium, dans les années 30, c'est la drogue des artistes et de la bohème. Et voilà le délire des journaux. Dufresne aurait eu dans son coffre au palace une liste de trafiquants d'opium qu'il aurait commencé à donner à la police. Il s'apprêtait à en donner d'autres. Son meurtre a été commandité par des trafiquants. Tout ça, bien sûr, sans le début de la queue d'une preuve. À part ça, il faut que je vous dise, sur le bureau du commissaire Priolet, qui dirige l'enquête, il y a maintenant un gros tas de lettres, une centaine de lettres de dénonciation. La plupart anonymes, bien sûr. Je connais un marin qui a un grand nez et qui s'appelle un tel. Et tant qu'à faire, on dénonce aussi les hommes aux mœurs spéciales par centaines. Monsieur Dufresne, ce vicieux, aurait mérité qu'on le jette à la rivière dans un sac, comme on le fait avec un chat. Ces gens-là sont dégoûtants et le marin qui l'a tué a bien fait. Il y a aussi cette lettre qui dénonce un homme qui n'a rien à voir avec l'affaire. Bien sûr, cet homme dont je vous parle ne correspond pas au signalement fourni par la presse de l'assassin de M. Dufresne, mais je crois pouvoir préciser qu'il a des mœurs contre nature. Et de plus, de par son origine bretonne, il n'avait rien à faire à Paris. « C'est alors que se pose une question essentielle. On cherche un marin, et on a mis la marine sans dessus-dessous. Mais s'agissait-il d'un vrai marin? Parce qu'il faut que je vous dise qu'à l'époque, la figure du marin tient une place de choix dans l'éventail des fantasmes homosexuels. Hein, le marin, le beau marin, c'est la jeunesse, c'est la force, c'est la discipline, c'est la camaraderie masculine. Dans les rapports de police de ces années-là, on dit que le marin est particulièrement recherché par la gente masculine pour des rapports intenses et sans lendemain. Et la conséquence de tout ça, c'est que beaucoup de jeunes prostituées, hommes, se déguisent en marin pour appâter le client. Alors notre marin était-il un vrai marin ou un faux marin? Un vrai, ça n'est pas impossible. Il arrive que de vrais marins se prostituent pour arrondir les fins de mois. Mais depuis que les policiers ont découvert l'existence de faux marins, honnêtement, c'est surtout à eux qu'ils pensent. Vrai ou faux marin, la question reste sans réponse pendant de longs mois, jusqu'au mois de juin 1934. Un indique du quartier de Montmartre vient livrer à la police le nom d'un faux marin.
« Moi, j'en connais un, moi. Paul. Paul Laborie. En vérité, tout le monde l'appelle Polo. Disons que c'est quelqu'un qui a le physique avantageux. C'est mieux pour aguicher les clients. Je suis certain que c'est lui qui s'est occupé de Dufresne. Vous pouvez y aller, hein. »
Alors, où est-il, ce Polo? Et qui est-il? Dans le milieu, on l'appelle Polo les belles dents. Il a 23 ans. Il a eu récemment affaire à la police pour une histoire de drogue. Et il a disparu. Et quand a-t-il disparu? Le 25 septembre, le lendemain de l'assassinat de Dufresne. Drôle de hasard, hein? Et il serait revenu depuis en mars 1934 et il est reparti. En Espagne. On se met à le chercher en Espagne et on le trouve en Catalogne. Il se cachait sous le nom de Filippi. Paul Laborie est arrêté à Barcelone en septembre 1934. Il est extradé en France un mois plus tard. On a peut-être arrêté l'assassin d'Oscar Dufresne. Je dis peut-être parce que, en vérité pour l'instant, il n'est désigné que par un indique. Mais sa fuite au lendemain du meurtre, son goût avéré pour les garçons et son habitude de se déguiser en marin font de lui un suspect idéal. Ce Paul Laborie est ce qu'on appelle dans ces années-là un apache, un voyou, un marlou. Il a 24 ans et depuis tout petit, sa vie va de travers. D'abord voleur, en grandissant macro, trafiquant de drogue et puis micheton de temps en temps. La tenue de marin, c'est un ami qui la lui prête. Et c'est vrai qu'il est parti le lendemain du meurtre du garni qu'il louait près de Pigalle.
Il est parti le 25, alors que son loyer était payé jusqu'au 28. Oh, moi j'ai trouvé ça bizarre.
Donc il a le profil. Et voilà le scénario que les policiers se font dans leur tête. Un jour avant le meurtre, Paul Laborie vient se frotter à Oscar au promenoir du palace. Oscar lui donne rendez-vous pour le 24 au soir à 22h. Ce soir-là, quand il a fini son affaire, la tâche à l'entrejambe, il veut dévaliser le coffre-fort. Alors il assomme Oscar avec une queue de billard sciée qu'il cachait dans sa vareuse. Il prend le trousseau des clés, il ouvre le coffre. Il ne contient rien d'intéressant. Alors il se contente du portefeuille et de la montre en or. Il replie le tapis sur Dufresne, qui n'est pas mort. Il pose dessus le matelas, comme un couvercle. Et c'est le matelas qui a étouffé Oscar Dufresne. Voilà comment ça a pu se passer. Sauf qu'il n'y a pas le début d'une preuve de tout ça. Le procès de Paul Laborie s'ouvre le 21 octobre 1935 devant les assises de la Seine. Il est accusé de meurtre avec préméditation, autrement dit d'assassinat. Il risque la peine de mort. Dès l'ouverture, le président met en garde les oreilles chastes.
Je demande aux femmes et aux mineurs, ainsi qu'aux personnes sensibles, de se retirer. Du fait des détails qui ne vont pas manquer d'être évoqués à cette audience.
Évidemment, personne ne bouge. S'ils sont venus, c'est bien pour entendre les détails dont parle le président. Du croustillant, du qui fait rire. Ils sont venus au spectacle voir des pédérastes. Alors pourquoi partir? L'avocat général lit l'acte d'accusation. Et là, il fait autant le procès d'Oscar Dufresne, la victime, que celui de l'accusé. Et l'auditoire voulait des détails, il leur en donne. Et on entend des « oh » et des « rares » dans toute la salle. Dans le dossier contre Paul Laborie, vous l'avez compris, il n'y a pas grand-chose. Sauf le fait qu'il se prostituait déguisé en marin et qu'il a quitté Paris le lendemain du meurtre. Et surtout le fait que des témoins disent l'avoir vu au promenoir juste avant le meurtre. Sauf que les témoins, les employés du palace, quand on les fait venir à la barre, ils ne le reconnaissent pas. Et on a trouvé des empreintes digitales sur les lieux du crime. Ce ne sont pas les siennes. On fait venir aussi un témoin qui se présente comme pédéraste professionnel.
Oui, j'ai eu des relations tarifées avec Monsieur Dufresne. Je le reconnais. Mais il était très généreux, il faut le dire. Et donc, à titre personnel, je pense que Paul Laborie n'avait strictement aucun intérêt à le tuer. Enfin, le tuer, c'était tuer la poule aux œufs d'or. Vous voyez.
Le lendemain, la presse résume l'audition des témoins. On a vu défiler les spécimens les plus pittoresques de la faune spéciale à certains milieux de Montmartre. Toutes les espèces d'invertis, depuis la grande courtisane jusqu'à la petite besogneuse de la pédérastie. Tout un monde à l'envers. Et à la fin, c'est absolument incroyable, l'avocat général requiert pour Paul Laborie les circonstances atténuantes.
Je considère que M. Laborie doit bénéficier de mansuétude du fait des mœurs de la victime.
C'est donc la faute du mort, s'il est mort. Et finalement, après 3 jours de procès, Paul Laborie est acquitté, sous les applaudissements du public. Et on se quitte sur cette idée, partagée par tous à l'époque, que Paul Laborie était peut-être l'assassin, mais que quoi qu'il en soit, Oscar Dufresne méritait bien ce qui lui était arrivé. Quelle histoire que je vais débriefer maintenant avec vous, Florence Tamagne. Vous avez écrit « Le crime du palace » chez Payot, dont je me suis beaucoup servi, vous avez dû le remarquer. Et vous avez aussi écrit, je l'ai noté, « Une histoire de l'homosexualité en Europe, à Berlin, à Londres et à Paris dans les années 30 ». Je vais commencer peut-être par une question idiote, pardonnez-moi, à l'historienne que vous êtes. Vous pensez que c'était Laborie, l'assassin ?
Alors, mon avis ne compte pas vraiment, mais à la lecture, en tout cas, des différents dossiers d'instruction, des rapports de police, la culpabilité de Laborie semblait quand même assez probable.
Vous avez eu accès aux archives, aux dossiers d'instruction ?
Oui, tout à fait, et également au rapport des RG, puisqu'ils surveillaient Dufresne. Donc ça permet d'avoir une idée assez précise de sa vie, des rencontres qu'il pouvait faire, et également de son entourage.
Alors pourquoi est-ce qu'il est acquitté ? Vous allez me dire le grand principe de la cour d'assises, et c'est pas nouveau, ça date de Napoléon, et que le doute doit profiter à l'accusé. C'est ça qui est appliqué ou c'est autre chose ?
Il y a plusieurs éléments. D'abord, il faut savoir qu'une grande partie des témoins ne sont pas venus au procès, certains d'entre eux ayant été très clairement menacés par des amis de Laborie qui étaient liés au milieu. Donc il y a plusieurs personnes dont on sait qu'elles n'ont pas souhaité venir témoigner. Après, comme vous l'avez bien expliqué, on fait le procès de Laborie, mais on fait aussi le procès de Dufresne. Et tous ces individus qui se succèdent à la barre sont vus comme peu crédibles de toute manière. Donc leur témoignage a peu de poids. À cela s'ajoute un troisième élément qui est quand même assez important, c'est que nous sommes au début de l'affaire en 1933. Tout ça va s'étirer jusqu'en 1935. C'est une période de grande agitation en France, d'agitation politique. Il y a la montée des ligues d'extrême droite. Dufresne est lui-même lié au parti radical qui a été impliqué dans différents soupçons de corruption. Et les rumeurs qui se sont répandues dans la presse laissent penser qu'on a tenté de dissimuler des preuves, que la police est complice du pouvoir, que derrière l'affaire Dufresne, il y aurait quelque chose de beaucoup plus important finalement qu'une banale affaire de mœurs, d'un entôlage dans les quartiers de Montmartre. Et on voudrait trouver un assassin qui aurait une autre envergure que finalement ce petit truand qu'est Labori.
Quand on pense que certains pensent qu'on a inventé les fake news au début des années 2000. Très 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 drôle. La conclusion de mon récit, vous l'avez entendu, on se quitte sur cette idée partagée par tous que Labori était peut-être l'assassin, mais qu'Oscar Dufresne méritait ce qui lui est arrivé. C'est ça en vérité la morale de ce verdict d'acquittement.
Oui, et ça montre aussi toute l'hypocrisie de l'époque, parce que, comme vous l'avez dit, bon, Oscar Dufresne est quand même un des rares à ne pas cacher son homosexualité. Elle est connue dans le milieu du théâtre, ça ce n'est pas anormal, en tout cas c'est un milieu bohème où c'est relativement bien accepté, mais il est quand même conseiller municipal, il a fait une campagne pour devenir député, et ses collègues savent parfaitement qu'il est homosexuel. Pour beaucoup de personnes, par contre, la discrétion est de rigueur. Dans la presse, on dit qu'on ne veut absolument pas parler de telles mœurs dissolues, mais comme vous l'avez évoqué, on en fait ses choux gras en même temps, c'est un moyen de vendre du papier. Donc on se donne une conscience finalement en clouant au pilori ce personnage truculent qui est aussi parti de rien. Il faut le rappeler, c'était vraiment un enfant des milieux ouvriers lillois qui a construit un empire à la force du poignet et qui a été sans doute très jalousé.
Il faut qu'on parle de ce lieu étonnant qu'était le Promenoir. Il y en avait donc dans la plupart des salles de spectacle.
Oui, il y en a dans la plupart des music-halls. Il y en a un aux Folies Bergères, notamment, qui est particulièrement réputé. C'était des lieux qui étaient souvent surveillés par la police parce que les prostituées, donc hommes ou femmes, avaient l'habitude de les fréquenter. Les spectateurs qui venaient au Promenoir restaient debout, regardaient un petit peu le spectacle, mais étaient là aussi pour faire des rencontres et repartaient souvent avec des entraîneuses ou avec des gigolos.
Je suppose que c'est un détournement de l'usage d'origine. En vérité, c'était les places moins chères, c'est ça ?
Bien sûr, tout à fait. Et d'ailleurs, la police essaie de réguler ces promenoirs. Théoriquement, ils étaient supposés rester allumés pendant le spectacle. Et on sait qu'au palace, Dufresne prenait bien soin d'éteindre dès qu'il n'y avait pas de policiers présents.
Mais il y avait des contrôles, je suppose, non ?
Il y a des contrôles, mais le palace, ça reste un music hall. Donc, ce n'est pas comme certains clubs, comme certaines boîtes de nuit, je pense à la Petite Chaumière et beaucoup d'autres clubs de Montmartre ou de Pigalle, qui étaient l'objet de descentes de police, voire de rafles régulières. C'est des établissements qui sont quand même de bonne tenue, avec un public qui est un public bourgeois installé à l'orchestre.
Alors, on a assez nettement l'impression dans cette affaire d'être dans un entre-deux, parce que il y a une forme de tolérance, on a le sentiment de ça, qui sans doute tient aux années folles, mais à côté de ça, l'homosexualité reste très tabou.
Oui, on est dans un entre-deux, mais il faut savoir que la France a dépénalisé l'homosexualité dès 1791, qu'elle a donc une réputation de longue date de tolérance en matière de sexualité, notamment d'homosexualité. Le gay Paris peut se comprendre de différentes façons. On voit aussi que Paris regorge de lieux de rencontre, de lieux de drague. Donc il y a une culture homosexuelle qui est assez visible. Il y a des grands bals travestis dont on fait le compte-rendu dans la presse, notamment dans Détective. À côté de ça, pour l'immense majorité des hommes et des femmes homosexuels, c'est l'anonymat qui domine parce que ça reste très mal vu, parce que pour beaucoup, l'homosexualité, c'est soit un péché, soit soit une maladie. Certains voudraient d'ailleurs bien que l'homosexualité soit criminalisée ou au moins les rapports avec les mineurs davantage contrôlés. Et il importe donc pour sa bonne réputation souvent de se cacher au minimum de ses voisins, de son entourage et en tout cas de taire son orientation sexuelle dans sa vie professionnelle.
J'ai bien noté qu'un chanteur comme Jean Sablon, qui a traversé les époques ensuite, qui est là au début de sa carrière, mais qui connaît un certain succès, l'assume publiquement.
Oui, c'est une rareté. En même temps, on a quelques figures. Il faut penser que André Gide, en 1924, a publié Corydon, qui se présente comme une défense de la pédérastie. Proust a publié Sodome et Gomorre. Donc, vous avez des figures comme Maurice Rostand, qui sont moqués, bien sûr, dans la presse caricaturée, mais dont on sait qu'ils sont homosexuels. Donc, pour ces figures, je dirais, ces artistes, ces écrivains, tous ceux qui appartiennent finalement eux-mêmes déjà à un demi-monde, il est sans doute plus facile que pour d'autres d'assumer leur homosexualité.
En revanche, la presse est totalement rétrograde. Moi, j'ai lu ce passage d'un journal au moment du procès. En vérité, il s'agit du Canard enchaîné. Nous avons vu toutes les espèces d'invertis, depuis la grande courtisane jusqu'à la petite besogneuse de la pédérastie. C'est incroyable d'écrire ça.
Oui, il y en a bien d'autres, mais là aussi, on voit qu'il y a quelque chose qui renvoie au mépris de classe. Il est clair que toute cette prostitution, ces milieux de Montmartre sont vus avec énormément de dédain. Dans la presse, par exemple, la figure de Serge Nicolesco, le secrétaire de Dufresne, est traitée avec une certaine ironie, mais un petit peu plus de compassion parce que ça a été une aventure relativement durable, parce que voilà, il y a eu une relation qui est pensée comme une relation amoureuse. Mmh. Voilà, exactement. Donc on voit qu'il y a des nuances, mais de manière générale, les stéréotypes sont extrêmement présent. L'homosexuel est toujours décrit comme efféminé. Le monde homosexuel semble être un monde de décadence, de déchéance morale. Mais c'est aussi une façon d'évoquer ces milieux, de se dédouaner auprès du public. On voit bien que certains journaux multiplient finalement les épithètes injurieux, mais ils donnent toutes sortes d'indications aux lecteurs. Si on était finalement intéressé par la fréquentation de clubs homosexuels, eh bien en lisant la presse, vous découvriez. Et voilà, exactement, ça devenait une espèce de guide.
Vous êtes en train de m'expliquer que les journalistes étaient des faux culs dès 1930 alors.
Écoutez.
le mot homosexuel en vérité n'existe pas à l'époque.
Le mot existe, il a été inventé, semble-t-il, en 1869, hein, par un écrivain hongrois. Néanmoins, il est très peu utilisé encore dans l'entre-deux-guerres. C'est un terme qui reste connoté scientifique ou médical. Donc, on emploie soit des espèces de périphrases, les fameuses mœurs spéciales, soit ce terme inverti que vous avez noté, qui renvoie à l'idée que l'homosexualité est une inversion de genre. Mmh. Donc toujours, voilà, l'homosexuel efféminé, la lesbienne masculine, et sinon tout un ensemble, en fait, de termes plus ou moins injurieux.
Un mot sur le terme pédéraste, c'est intéressant, oui. Parce qu'il est utilisé depuis quand ? Parce qu'il est utilisé, moi j'ai souvenir, on disait ça encore dans les années 70 et 80, pédéraste, et puis ça a totalement disparu, parce qu'il y avait une confusion avec la pédophilie à travers ce mot en vérité.
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que certains, dans l'entre-deux-guerres, se disent pédérastes, mais cette fois-ci, c'est plutôt les origines grecques qui sont valorisées. Donc, l'idée d'une inscription dans une culture antique, légitime, le modèle spartiate, ça reste encore relativement positif. Par la suite, en effet, les connotations, les confusions avec la pédophilie ont largement fait disparaître l'usage, même si, on le sait bien, l'injure pédé
Il est resté le diminutif.
Voilà.
Quoi.
Oui, oui, oui.
Je vous remercie du fond du cœur, Florence Tamagne, de faire partie de ces chercheurs, de la recherche française, de ces universitaires, qui collectent tellement de documents qui nous permettent à nous, aujourd'hui, de ressusciter ces affaires. Et je vous renvoie donc à ce livre, Le crime du palace, paru il y a 2 ou 3 ans chez Payot, écrit donc par Florence Tamagne.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.